micro citoyen, la jeunesse et l'avenir de l'Europe.
Nous avons commencé par traiter de notre premier thème, donc l'emploi pour les jeunes en Union européenne. Quelles sont les initiatives en faveur des jeunes européens? Qu'est-ce qui existe au sein de l'Union européenne en fait pour garantir un accès à l'emploi? Et est-ce que c'est réellement efficace? C'est des questions qu'on peut vraiment se poser au jour d'aujourd'hui. Je vais commencer par un petit état des lieux de ce qui est en place et ce que l'Union européenne a fait récemment avec quelques chiffres. Donc en septembre 2021, selon Eurostat, nous pouvons voir que 15,9% en moyenne des Européens de moins de 25 ans sont sans emploi. Le pays ayant le plus de jeunes au chômage est l'Espagne, avec plus de 30% de jeunes. Et ceux qui ont le moins de taux de chômage sont l'Allemagne, la République tchèque, l'Autriche, les Pays-Bas et le Danemark, avec moins de 10% de jeunes sans emploi. Quant à la France, en septembre 2021, nous sommes à 19,2% des jeunes qui sont au chômage. Et donc, pour traiter la question de l'emploi des jeunes, l'Union européenne a lancé récemment la garantie renforcée pour la jeunesse. C'est un programme qui vise en fait à proposer une solution de qualité pour chaque jeune dans les 4 mois suivant la perte de leur scolarité ou la fin de leurs études. Par solution de qualité, ce qu'entend l'Union européenne, c'est en fait soit un emploi, une formation continue, un apprentissage ou un stage. Et c'est une garantie qui s'adresse aux jeunes de 15 à 29 ans. C'est financé par l'Initiative pour l'emploi des jeunes en Union européenne, qui en fait a été intégrée en 2021 dans le Fonds social européen plus. Donc le Fonds social européen plus, FSE plus, c'est un programme de financement de l'Union européenne sur la période 2021-2027 qui sert justement à financer plusieurs choses, dont en partie la garantie pour renforcer pour l'emploi des jeunes. Et cela sera déterminé en fait au niveau national, donc comme par exemple en Italie, avec un montant approprié déterminé par chaque pays. Concrètement, en fait, cette garantie renforcée pour la jeunesse, ça permet de mettre en place donc pour chaque pays au niveau national des choses telles que des aides financières pour accéder à l'emploi. Ça permet également d'avoir un accompagnement pour les jeunes, pour ces recherches d'emploi, etc. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt bien? Est-ce que vous pensez que c'est pas assez concret?
Moi, je pense que c'est une assez bonne idée, que ça peut aider pas mal de jeunes.
Est-ce que, par exemple, t'aimerais bien en bénéficier, si possible?
Après mon service civique, si je trouve pas quelque chose, pourquoi pas?
C'est vrai que moi, j'en avais jamais entendu parler avant, alors... En fait, c'est bien. Genre, c'est positif qu'ils mettent des choses en place pour aider les jeunes. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de communication, parce que vu que moi, je me sens concernée par la chose, mais je ne suis pas au courant que ça existe. J'ai jamais entendu parler de ça. Après, je n'ai pas fait de recherche non plus, mais je trouve que ce n'est pas assez poussé, la communication. Je pense que ça peut être utile si c'est plus répandu et si on nous en parle plus. Parce que sinon, si c'est mis en place et que personne n'est au courant que c'est mis en place, je ne vois pas trop l'utilité.
Peut-être qu'il faudrait proposer, oui, comme tu dis, plus de communication au niveau européen et même peut-être au niveau national et dans tout le tissu ensuite local pour que ce soit plus répandu. Est-ce que vous voyez des solutions en fait pour améliorer l'accès à l'emploi pour les jeunes en Union européenne? Est-ce que vous auriez des idées?
I think what it's important to do is like to give young people the possibility to have a first job. Because usually the first problem is that everybody asks for experience, but employees don't give people the chance to have like the first experience, and this makes the whole process of having a job and creating a career very, very difficult. So I think it's important that employees and adults like believe in us and give us that first chance. And yeah.
Je pense que c'est très important pour les adultes et ceux qui ont un travail de nous donner une chance de créer notre première expérience. Parce que souvent, quand on postule pour un job, ils nous demandent d'avoir de l'expérience. Et du coup, c'est un peu inservicieux parce que vu qu'on n'a pas l'expérience, on n'est pas employé. Et vu qu'on n'est pas employé, on n'a pas l'expérience. Donc, je pense que c'est important pour nous qu'ils nous laissent l'opportunité d'avoir cette première expérience. Comme ça, ce sera un début pour pouvoir se projeter plus loin et pour pouvoir avancer dans la vie. Pour les jeunes personnes.
Par exemple, quand tu as 17 ans, même pour trouver des stages, c'est un peu dur en ce moment. Puis la crise du Covid, on te demande beaucoup plus et souvent ils prennent que des majeurs, même pour des simples stages. ce que j'ai vécu quand j'étais au lycée.
Parce qu'au lycée, t'avais un stage à faire.
J'avais plusieurs stages et la plupart, je les ai pas trouvés. Enfin, j'ai pas trouvé parce qu'ils prenaient pas ou ils acceptaient pas.
Oui, donc pas facile.
Souvent à cause de l'âge.
Oui. Ok.
Yes, actually, I just finished my bachelor in March, and it was quite impossible to get a job, especially with the COVID situation. So what I chose to do is just trying to create some experience through volunteering. So I did an Erasmus Plus internship in Greece where I volunteered. And after that, I came here also because I felt that I need to create experience through this kind of experiences. Because finding a job with like zero experience was impossible.
Donc elle a fini ses études en mars et elle a essayé de trouver un job après ça, mais il y a eu la crise du corona qui ne l'a pas aidée. Et donc elle n'a pas réussi à trouver un emploi, donc elle a décidé de se faire de l'expérience au niveau du volontariat. Donc elle est partie avec Erasmus+ en Grèce faire du volontariat avec avec les migrants. Et après ça, du coup, elle s'est retrouvée à Strasbourg avec l'association Unicité pour faire une autre période de volontariat. Elle trouve que c'est compliqué de trouver un job après ses études, surtout avec le corona en ce moment.
Et le service civique, est-ce que pour vous c'est un moyen de... ou le Corps européen de solidarité, est-ce que pour vous c'est un moyen de rebondir un peu à ce propos, ou alors c'était pour votre expérience personnelle?
Pour moi c'est un peu des deux, parce que j'en avais un peu marre de commencer des études sans vraiment savoir où est-ce que je voulais aller à la fin, et au final j'avais l'impression que je perdais mon temps parce que j'avais pas d'expérience, enfin, c'était des années qui sont pas finies, donc ça compte pas. Donc j'ai pas de diplôme, et donc le temps il avance, et moi je reste toujours, je stagne. Et j'avais déjà entendu parler du service civique, et je pense que cette année c'était la bonne année, parce que j'en avais vraiment marre de pas trouver ce que je voulais faire, et je voulais vraiment m'engager dans quelque chose qui a du sens pour moi. Donc j'ai décidé de m'engager, et au final je regrette pas, parce que comparé aux années d'avant, j'ai l'impression que je fais quelque chose, et ça me plaît, et je pense que c'est une expérience qu'il faut prendre.
Donc il y aurait en fait un peu cette idée de rebondir une fois qu'on a terminé les études, et d'avoir peut-être quelque chose, un dispositif qui aiderait les jeunes à avoir un premier emploi, même sans expérience.
L'Union européenne met quand même pas mal de choses en place, comme par exemple cette interdiction de faire des stages non rémunérés, qui est quand même... ça permet de faire avancer les choses, ça permet aussi aux jeunes de ne plus se sentir exploités, d'avoir de l'expérience et en même temps de gagner un peu d'argent, et aussi peut-être faire plus de programmes comme les services civiques ou les volontariats pour donner en fait aux jeunes plus d'opportunités et plus de portes qui s'ouvrent.
Et à ce propos, pensez-vous que les aides justement et les programmes tels que Erasmus+, les aides financières à la mobilité ou encore le Corps européen de solidarité, vous en bénéficiez, mais est-ce que vous pensez que c'est assez connu auprès des jeunes ?
Non, moi je pense que c'est vraiment pas assez connu. Par exemple, moi je ne connaissais pas tout ce qui était Erasmus+ avant de rentrer dans le service civique. Je connaissais uniquement le service civique en fait. Je savais pas qu'il y avait des choses qui étaient mises en place pour pouvoir bouger quand on n'a pas forcément les moyens.
Je pense qu'ils devraient en parler plus dans les lycées ou collèges, parce que moi j'avais parlé déjà de ce que je voulais faire plus tard. Je savais pas trop ce que je voulais faire. Donc on m'a jamais proposé de service civique ou ce genre de programme-là. Mais ils devraient en parler.
Donc là, si je fais un peu un résumé de tout ce que vous me dites, une des choses déjà essentielles que pourrait faire l'Union européenne, ce serait peut-être mettre en place toute une stratégie de communication, ou du moins améliorer sa stratégie de communication pour parler de tous les programmes dont les jeunes peuvent bénéficier, tels que les corps européens de solidarité ou autres. Peut-être aussi justement faire en sorte que ces informations descendent à un niveau très local et très proche de la population, tels que les lycées. Même pourquoi pas les collèges pour d'autres programmes. Et donc là, l'idée précédente qu'on avait aussi ressortie, c'était finalement l'Union européenne pourrait en fait mettre en place aussi un programme qui faciliterait le premier emploi pour les jeunes, ce fameux premier emploi sans expérience avant, même si les services civiques sont également des manières de rebondir à ce manque d'expérience. Peut-être que l'Union européenne, d'après vous, pourrait en fait mettre en place encore plus pour faciliter cet accès.
On pourrait faire une sorte de service civique qui permet de trouver un premier emploi, par exemple mettre en place comment être encadré par des professionnels qui nous aident à faire des recherches, qui nous mettent dans la bonne direction, qui nous aident à contacter les bons patrons, etc.
Oui, je vois, oui, un peu un accompagnement.
Oui, c'est ça. Et aussi au niveau communication, par exemple, je pense que en fait, il y a tellement de moyens maintenant avec les réseaux sociaux de toucher les jeunes, de partager ses idées. Enfin, par exemple, si je prends EF, c'est payant, mais ça, on nous en parle dans les écoles. Moi, je sais que j'avais des affiches EF dans mes écoles, et par contre, jamais j'ai eu des affiches service civique dans mon école. Et je trouve ça vachement bête, parce qu'au final, avec les réseaux sociaux, ça peut être si simple de partager... justement, de faire connaître ce type d'engagement, ça peut être très, très rapide et très simple. Et je trouve qu'ils n'en font pas assez, alors que ça pourrait vite toucher beaucoup de jeunes.
Et moi, je trouve ça hyper intéressant tout ce que vous dites, parce que quand j'y pense, moi, les programmes de mobilité à l'international, je les ai connus assez tôt, au lycée. Parce que dans mon lycée, il y avait beaucoup d'échanges qui se faisaient à l'étranger, que ce soit aux États-Unis ou même dans les pays du Nord. Donc ça, j'étais assez sensibilisée là-dessus. Et j'ai été ensuite directement sensibilisée dans mes études à tout ce qui est Erasmus parce que j'ai fait des études en langue. Par contre, je me rends compte que, après en avoir discuté avec des amis ou même avec des gens qui étaient dans mes écoles, les personnes qui sont touchées le plus par la mobilité, surtout en Europe, ce sont les personnes qui ont le profil dit plus, ce soit les études ou soit au niveau des critères sociaux. Et du coup, moi, je trouve que c'est assez problématique, en fait, que beaucoup de jeunes et envie de partir, mais se disent j'ai pas forcément les moyens de le faire, que ce soit financier ou même émotionnel ou psychologique, et que l'Union européenne ne fasse pas plus de choses pour aider ces jeunes à partir. Et c'est pour ça que je pense que le corps européen de solidarité, c'est un bon début, parce que il y a beaucoup d'avantages, que ce soit financier ou même au niveau de l'accompagnement. Donc je pense que c'est des programmes qui devraient être beaucoup plus, il devrait y avoir beaucoup beaucoup plus de communication autour de ce genre de programme.
Il y a la mission locale aussi qui aide vachement les jeunes pour trouver ce qu'ils veulent faire, et eux orientent aussi souvent vers les services civiques.
D'accord. Et la mission locale, tu en avais connaissance
J'ai fait un programme là-bas en fait, et c'est eux qui m'ont aussi un peu dirigé vers ça en me disant que ça pourrait être sympa, effectivement.
Et t'en avais connaissance via le lycée, je veux dire, ou...
Oui, c'était le lycée qui m'avait dit, bon écoute, tu sais pas quoi faire de ta vie, va à la mission locale.
C'est eux qui m'ont dirigé vers l'accompagnement...
La femme.
Ouais, c'est ça. Et là-bas, ils proposent des formations, des apprentissages et des services civiques.
Nous allons passer à la seconde thématique, qui est celle du climat. Donc depuis 2007, l'objectif de lutte contre le réchauffement climatique, c'est un objectif à part qui est inscrit dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, donc qui est vraiment l'un des gros objectifs de l'Union européenne. Récemment aussi, depuis 2019, l'Union européenne a mis l'accent sur les objectifs climatiques dans sa nouvelle stratégie, le Green Deal ou Pacte Vert en français. C'est la stratégie pour l'environnement de l'Union européenne qui pose notamment un grand objectif qui est celui de la neutralité climatique en 2050. Et donc, avant cela, qui passerait par une étape qui serait la réduction des 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc c'est un objectif assez conséquent. Donc comment faire pour atteindre cet objectif? Est-ce que vous trouvez tout d'abord que l'Union européenne en fait assez ou qu'elle pourrait en faire plus à ce propos?
Je pense qu'ils ont beaucoup d'objectifs, mais au final, on voit pas du tout les résultats. Et les résultats, justement, ils se dégradent au lieu de s'améliorer, donc c'est pas forcément positif. Et c'est une thématique importante, justement, surtout de nos jours, mais ça l'était déjà avant. Et il y a quelques années, c'était déjà une thématique importante, mais il y a toujours peu d'action. Les gens, ils essayent à une échelle plus locale de faire des efforts.
I agree with Zoe, and I think this is actually what we need. First of all, we need more regulations and laws. Since without laws, I don't think there's any possibility to reach that objectives. And also, I think education is so important, starting from children, because I think what we really need is like a change of the mentality. So trying to accord more attention to climate change and really change our habits.
Donc ce qu'elle dit, c'est que selon elle, ça peut pas marcher si on passe pas par une application de loi. Donc faudrait mettre en place des lois qui mettent des restrictions, bien qui font en sorte que les gens respectent vraiment et se mettent à fond dans justement tout ce qui est changement climatique. Elle pense aussi que le deuxième point, c'est l'éducation et qu'il faudrait commencer avec les enfants, donc dès le plus jeune âge, les sensibiliser à la question du changement climatique. Comme ça, ce sera plus simple si on commence dès le plus jeune âge à changer les mentalités, parce que c'est vraiment ça l'objectif, changer les mentalités et faire en sorte que on change de fonctionnement de vie un peu.
Actuellement, l'Union européenne donc, est en train de travailler sur une loi européenne sur le climat, donc qui permettrait justement d'avoir des lois du droit en fait qui se mettraient en application, plus ou moins contraignants. Alors ensuite, concrètement, je pense que des podcasts comme celui-ci pourront servir à proposer des choses. Est-ce que vous auriez des idées de ce que l'Union européenne pourrait mettre en place justement comme action concrète pour favoriser l'utilisation, par exemple, de l'énergie, des énergies renouvelables, toujours dans cet objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
I think like it's not impossible, because for example, if you look to Germany, like they are so advanced in this field, and they are really trying to switch everything like to a more suitable. How do you say this? Like, they are changing a lot of the way, like, where they get the energy from. They're doing the switch from, like, the traditional ways to...
Oui, je pense à ça aussi.
Elle pense que c'est possible de changer sa façon de vivre et d'utiliser plus d'énergie renouvelable. Elle a pris l'exemple de l'Allemagne, parce qu'en Allemagne, c'est vrai qu'ils sont un peu plus avancés sur tout ce qui est énergie renouvelable et changement climatique, notamment parce qu'ils donnent des aides aux personnes vivant dans le pays, afin de les pousser un peu à changer leur mode de vie, leur mode de consommation. Donc s'il y a un peu d'aide financière, elle pense que c'est possible de faire en sorte que les gens changent leur façon de vivre et de changer petit à petit le pays en utilisant des énergies renouvelables et des énergies plus vertes.
Oui, alors je voulais rebondir aussi là-dessus. Il y a également dans l'Union européenne en place, je ne sais pas si vous le savez, mais le principe du pollueur-payeur. Donc ce principe, c'est en fait le fait que donc les grandes entreprises qui polluent, qui rejettent de la pollution dans l'air, à partir d'un certain plafond, en fait, doivent payer une somme pour compenser cette pollution. Et donc le but de ça, c'est donc d'inciter les entreprises à réduire leur pollution, car normalement elles n'auraient en principe pas envie de payer, ou bien de payer, mais donc le but c'est quand même de les inciter à aller vers une réduction de leur pollution en leur imposant une taxe en fait. On a également en Union européenne le marché carbone, donc qui est un marché d'échange de quotas pour l'énergie carbone. Vous trouvez que ça des mesures comme ça en fait faudrait les renforcer ou est-ce que vous trouvez plutôt que faudrait mettre en place carrément d'autres mesures parce que ça reste une mesure qui a des limites ou qu'est-ce que vous en pensez finalement?
Moi je pense que c'est une mesure qui devrait être changée parce qu'une entreprise qui a, on va dire, beaucoup d'argent, ça ne la dérangerait pas de verser un peu d'argent si elle peut continuer à faire ce qu'elle fait. Alors je pense que ça devrait limite être interdit au lieu d'un certain stade, en fait, de pas avoir le droit, parce que si t'as le droit, mais qu'en échange tu dois payer, ils vont pas arrêter, ils vont peut-être payer, ça va un peu les embêter sur le moment, mais c'est tout.
C'est vrai que cette taxe, au final, s'ils donnent un peu de leur argent, tant que l'entreprise ne s'écroule pas, ça va pas les empêcher. Alors que si on taxe plus fort, ou je sais pas, si on augmente la taxe, si on met en place une loi je sais pas si les interdire ce sera suffisant. En fait, franchement, j'ai l'impression que, vu que c'est des entreprises qui aident le pays et qui rapportent de l'argent, au final, elles sont un peu permises, des fois. Donc, je sais pas trop.
Est-ce que vous verriez également des mesures, en fait, qui pourraient permettre d'accélérer, je dirais même, la mobilité zéro carbone?
Moi, je pense qu'il faudrait favoriser le vélo, les transports en commun, parce que un bus transporte beaucoup plus de personnes et pollue à peu près pareil qu'une voiture. Ouais, je pense qu'il faudrait favoriser ce genre de transport. Vélo ou transport en commun.
Vélo ou transport en commun, ouais.
I agree with Jessica, and I think that like public transport, buses, trams, what other public transport there? Trains, yeah, like they're super important, like for this change, because like in just one train or one bus you can put so many people. So it's important like for the structures to exist, like the local transport system to work like properly. And to have like, I don't know, like good prices and discounts like for students or other categories. And also the timetables are important in order like to be accessible for everyone. I think this is one of the solutions.
Donc, je pense que tout ce qui est transport en commun, c'est vraiment très important comme solution. Parce que c'est vrai que, comme elle dit, on peut transporter beaucoup de personnes dans un bus ou dans un tram. Donc au final, ça permettrait de réduire les voitures. Et elle disait que c'était important pour elle que le service de transport en commun soit présent pour les personnes, c'est-à-dire que peut-être revoir les emplois du temps, peut-être revoir les horaires afin qu'il y ait plus de, par exemple, en heure de pointe, pour qu'il y ait plus de trams, plus de bus, pour pas que les personnes elles soient entassées ou qu'elles aient l'impression d'attendre, parce qu'on est quand même assez impatients ici, donc si les personnes elles ont l'impression d'attendre, elles vont perdre leur temps, alors elles vont préférer prendre la voiture, alors que sinon, s'il y avait plus de bus ou de tram, ou si c'était plus régulier, ce serait vachement plus facile. Après aussi, les tarifs qui pourraient être réduits, ou bien on pourrait avoir une aide par rapport aux tarifs. Une carte, par exemple, jusqu'à 25 ans, où les transports sont gratuits. Parce que là, à partir de 18 ans, jusqu'à 18 ans, je pense que les transports en commun sont gratuits dans certaines villes. Mais il y a beaucoup de jeunes au-dessus de 18 ans, que ce soit les étudiants ou bien les jeunes travailleurs, qui prennent les transports en commun parce que c'est plus accessible, c'est plus pratique. Mais au final, l'abonnement, ça revient quand même un peu cher. Alors que si c'était mis en place pour que, enfin, par le gouvernement, si c'était une aide qui était donnée, je pense que les personnes, elles seraient beaucoup plus motivées à prendre les transports en commun s'ils avaient à moins payer. Et ce serait une solution vraiment qui changerait beaucoup de choses, je pense.
Est-ce que vous diriez qu'il faudrait peut-être que l'Union européenne investisse dans, je sais pas, des bus électriques?
Je sais qu'à Strasbourg, j'en vois passer de temps en temps, donc je sais que ça existe et je pense que ce serait une solution.
On parle souvent de ben, prenez le bus, enfin, prenez pas la voiture, mais on dit jamais ben, prenez vos jambes et marchez. Et je pense que ça serait intéressant aussi de faire des campagnes là-dessus, dire ben, moins de 2 km, essayez de marcher si vous en avez la possibilité, parce que ben, déjà, on pollue beaucoup moins. Et en plus, on fait de l'exercice physique et c'est hyper bon pour le corps de faire minimum une heure d'exercice physique par jour.
Et au niveau de la mobilité, justement, ben, à travers l'Europe, parce que là, donc, on parle beaucoup des transports en commun dans les villes, mais on est aussi une génération qui voyage beaucoup, notamment quand on est européen, en Union européenne, c'est facile maintenant, c'est alléchant même d'aller faire un week-end à Amsterdam, à Prague, etc. Donc qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être fait ou amélioré pour avoir cette mobilité en fait, mais rester quand même dans des solutions durables? Par exemple, il y a des trains de nuit qui viennent d'être lancés, qu'est-ce que vous en pensez?
Si le train, il était moins cher que l'avion, même si l'avion est plus rapide, je pense que je prendrais le train, quoi. C'est vraiment question économique, je pense qu'il faudrait réajuster les tarifs, peut-être faire des offres pour les personnes les plus jeunes, ou bien les personnes qui habitent plus loin, ou bien... Il faudrait adapter chaque transport en commun pour le type d'utilité.
À partir de maintenant, tout employeur qui... un employé qui fait un trajet, que ce soit par voiture ou même en transport en commun, a l'obligation de rembourser au minimum 50% du transport de son employé. Donc moi, on me rembourse 50% de mon trajet.
Quand on voit aussi, par exemple, des blablabus qui sont pas chers, mais au final, c'est des solutions qui sont utiles parce que ça permet d'utiliser une voiture au lieu d'en utiliser 3, par exemple. Donc pourquoi pas, mais faudrait vraiment revoir... les prix, en fait, je pense.
Après, je crois que c'est de favoriser le train entre les jeunes avec ces cartes de transport.
Oui,
il y a une carte avantage, il faut quand même la payer, tu vois.
I was thinking as we were talking that there's the possibility here thanks to the European Union to travel around Europe if you're a young person doing the Interrail. I don't know if you know about this, but I think like this is like a great initiative in order for people to not take the plane and to travel around Europe to more countries taking the train, which is like more like a green option.
Donc elle pense que ça c'est une bonne initiative, ça a été mis en place donc faire pareil, ça peut pousser les jeunes Européens à bouger moins avec l'avion, mais plus justement avec le train, qui est quand même une option un peu plus verte comparée à l'avion.
En effet, il y a aussi EU Discover qui est un programme où vous pouvez vous inscrire quand vous avez 18 ans, il me semble, et qui permet de gagner un mois de train en Europe, gratuit. Je pense qu'on a terminé avec cette thématique. Je vous remercie de votre participation.
Merci.
Merci.